Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission quotidienne, vous la connaissez. Vous montrez que oui, la France bouge et qu'elle est riche de talents. C'est le coup d'envoi de la campagne officielle des européennes. Aujourd'hui, le vote des citoyens, ça compte pour tout. Cette démocratie participative s'invite dans tous les secteurs et vous allez voir que les Français innovent pour nous donner voix au chapitre. Elle est née en 1946, a été inventée par un Polonais à Paris, puis ensuite est partie vers la Corrèze. Sottise est l'entreprise qui va bien, merci. Vous voulez commencer à mieux consommer, plus responsable, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre. Et si vous vous mettiez à la box Pousse Pousse, c'est la solution. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez évidemment le numéro, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler au standard d'Europe 1. Anissa, venez nous dire par exemple si vous aimez être consulté, donner votre avis et voter, car c'est aux innovations au service de la démocratie que nous nous intéressons.
Oui, venez nous dire comment vous imaginez cette démocratie 2.0. Ça se passe justement sur les réseaux sociaux, vos messages, vos réactions, vos questions avec le hashtag Europe 1 pour Twitter. Et vous pouvez nous appeler, on vous écoute dès maintenant. 3921, 50 centimes la minute, Raphaël.
Alors ça ne vous a pas échappé, hein, c'est le début de la campagne officielle des élections européennes. Alors, on a eu envie de regarder tout simplement d'un peu plus près ce qui existe réellement aujourd'hui chez nous en France pour que le citoyen soit de plus en plus actif, qu'il se sente pris en compte dans les décisions qui l'entourent. Pour accueillir nos invités à mes côtés, elle est là pour nous éclairer. C'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et c'est Riyad Boulanoir, le fondateur notamment du compte Nickel, mais aussi de la méthode Boulanoir qui a enfilé le costume de coach aujourd'hui. Salut Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Dans 13 jours, vous serez, vous le savez, appelé aux urnes hein, pour les élections européennes. Tout un tas d'élections qui rythment nos vies finalement. Mais le citoyen, lui, a besoin d'être consulté en dehors de ces temps forts que sont la présidentielle, les législatives ou encore les municipales. Et ça, eh bien, des Français l'ont compris. Bonjour Stéphane Bequin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Voter, V-O-O-T-E-R. Vous avez créé une appli, on va le simplifier, oui. Appli de consultation citoyenne. Expliquez-moi pourquoi et comment est né ce projet dans votre tête.
Alors, merci de l'invitation. C'est un constat qui est né de la rencontre de Dimitri, qui est l'autre cofondateur, et de moi. On vit dans un monde qui est un peu en mutation, où il y a un peu une bascule, on va dire pour simplifier, où les défis qu'on a à relever collectivement, qu'ils soient politiques, écologiques, sociétaux, en termes généraux, n'ont jamais été peut-être aussi grands. Donc notre conviction, c'était de dire qu'on devait améliorer nos processus de décision de manière un peu drastique. Et donc pour ça, on a mis une brique pour aider ce processus qui est de faire participer le citoyen facilement, non pas une fois tous les 6 ans, mais tout au long de sa vie de citoyen.
C'est-à-dire que dans le cadre d'une municipalité, par exemple, vous allez régulièrement, grâce à cet outil, pouvoir avoir l'avis des citoyens qui auront adopté le système Voter. Vous avez testé, grandeur nature, à Bougival, c'est ça ?
Oui. Alors aujourd'hui, Bougival, c'était
ça, c'était la ville test de départ.
Ouais, voilà, c'était la première, on va dire, municipalité. Bon, depuis, il y a eu beaucoup de petits. Aujourd'hui, on a une trentaine de clients, un petit peu dans toutes les strates. Hein. Donc ça va
Des grosses comme des petites collectivités.
Exactement, en fait, c'est une poupée russe, hein, l'outil. Donc on a le plus petit village, ça doit être Bras-sur-Meux, je crois que c'est 500 habitants. Mm-hmm. Le plus grand, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, donc quelques millions d'habitants.
Oui, ça fait du monde. Alors, qu'on vous demande ? Tout le monde vous demande la même chose ou vous faites du sur-mesure ?
Alors non, tout le monde ne nous demande pas la même chose. Mais je vais peut-être détailler un petit peu en fait, l'esprit ou la méthodologie. En fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'on va pouvoir facilement faire participer le citoyen, donc grâce à l'outil, comme vous l'avez dit, qui est une application sur tout support, donc mobile et web. Donc le processus de participation a été simplifié. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, on va dire. Et après, il y a des spécificités.
On va prendre un exemple, je pense que ça parlera à tout le monde. On est dans la ville de Bougival. La municipalité a envie de changer le nom d'une rue, par exemple. Vous allez créer...
C'est un exemple concret qui s'est passé d'ailleurs. Donc ils ont renommé une rue.
Il y avait plusieurs propositions.
Vous avez fait une boîte à idées au départ et ensuite ils ont amené les gens à se positionner sur le nom de la rue. Donc, naturellement, bah, aujourd'hui, on est à 3 ans, on va dire à peu près, de retour sur Bougival. On doit avoir 10% de la population active qui, à chaque fois qu'on la sollicite, va donner son avis.
Oui, donc c'est une consultation finalement quasi continue des habitants qui, du coup, ont vraiment le sentiment que les choses sont prises en compte.
Bah, en tout cas, en termes de pédagogie, de compréhension des enjeux au niveau locaux, nous, on mène des études sur eux. On a l'impression que c'est vraiment des ambassadeurs. Hein, pour paraphraser un peu les mots du maire, c'est qu'on va aider le citoyen à redevenir plus acteur que consommateur de services. Et nous, on va chercher les avis de nos utilisateurs pour améliorer la solution en continu. Et eux nous disent que ça fluidifie, ça simplifie, parce qu'on n'a pas toujours le temps en fait, d'aller peut-être à une réunion publique ou...
Ou tout simplement de s'informer ou de lire le petit mot qu'on trouve parfois dans la boîte aux lettres. Que dit notre coach de cette initiative Hooter?
Je me posais la question, moi, je me demandais si, à force de consulter tout le monde sur tout et tout le temps, c'était pas une façon un peu de se défausser des responsabilités de nos élus, de prendre des décisions et de prendre les bonnes, quoi. Je me demande dans quelle mesure, finalement, cette brique technologique qui arrive, elle a pas tendance à peut-être trop questionner, puisque si on commence à questionner sur le nom des rues, si on commence à questionner sur tout, effectivement, on va toujours se retrouver dans des formes de consensus mou. De quelle façon vous percevez ça, vous ?
Alors, j'entends la remarque. Alors, en revanche, je me pose en faux, dans le sens où ce que va apporter un outil où une partie de la population, en fait, va donner son avis, c'est au contraire de lever les incompréhensions possibles en amont des projets. Et on sait aujourd'hui que d'impliquer le plus tôt possible dans la construction, que ce soit d'une rue, que ce soit mais n'importe quoi, ça peut être un projet de...
En fait, ça va dépendre du choix des questions, quoi, surtout.
Oui, et c'est là où on intervient, en fait, puisqu'on est, on n'est pas juste fournisseur d'un outil, on est surtout fournisseur d'une méthodologie et d'une bonne pratique.
Donc, Elisabeth, donc vous aidez à formuler les questions, parce que parfois, à travers ces petites questions dans les applis ou dans les sondages sur Facebook ou ailleurs, la façon dont on formule la question peut nous amener à répondre d'une façon ou d'une autre.
Évidemment qu'il y a un biais. Quand on sait
et
tous,
c'est vous,
hein,
le biais
la formule.
C'est vous qui reformulez justement
ces questions.
Alors nous,
on forme. L'idée, c'est pas que nous, on soit à la place de la collectivité, en fait. L'idée, c'est de former la collectivité pour qu'elle ait les bonnes pratiques et qu'elle soit autonome. Après, derrière une question, il y a un biais. Il y a toujours un biais. L'idée, c'est d'en avoir conscience. Alors, après, on a 2-3 fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de dire, moi, là, je ne me prononce pas parce que je pense que c'est mal formulé.
Ah oui,
on est apprenant. Bien sûr que c'est ouvert.
En tout cas, le modèle évolue aussi
grâce aux utilisateurs.
Des utilisations.
Mais j'en reviens à l'idée, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus on implique les gens en amont des projets,
et plus votre outil va
enjeux.
Pouvoir leur ressembler aussi et être adapté.
L'idée, c'est que nous, on s'applique les processus de co-construction qu'on défend. Hein.
Évidemment.
Et vous gagnez votre vie comment ?
Alors, par abonnement, je crois.
Oui, c'est un abonnement. Aujourd'hui, en fonction de la taille de la collectivité, il y a un abonnement. Donc, évidemment, si j'ai quelques milliers d'habitants, c'est le même prix que si j'ai plusieurs millions d'habitants au sein. Et c'est un forfait annuel. Donc, ça va concrètement de 2000 euros à 25 000 euros.
Oui, ça dépend de la taille de la collectivité,
qui
évidemment.
Qui permet de consulter en illimité. Et aussi, une de nos spécificités, de créer autant de groupes qu'on le souhaite. C'est-à-dire que le groupe principal, ça va être l'ensemble de la population, mais derrière, on peut avoir des groupes plus quali.
Ados,
ça peut être par géographie aussi, un groupe de quartier, les parents d'élèves. Donc je personnalise l'usage que j'en ai au fur et à mesure de l'évolution.
On reste ensemble, on continue à parler de ces innovations françaises aujourd'hui en matière de démocratie.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Inclure le citoyen dans le processus de décision, c'est aussi l'ambition de TIC, T-Y-C, qui a conçu un robot conversationnel que vous verrez peut-être d'ailleurs pendant ces élections. A tout de suite.
Des élections européennes. Aujourd'hui, la France bouge et nous découvrons, grâce à vous, Raphaël Duchemin, et grâce à vos invités, les innovations au service de la démocratie. Elles sont françaises, ces innovations, et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, posez toutes vos questions, vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au standard, le 3921.
Ah ouais, c'est vrai que vous allez recevoir les professions de foi dans vos boîtes des candidats aux européennes, et puis voir aussi défiler sur vos écrans les fameux clips officiels. Mais aujourd'hui, allez chercher des électeurs, leur demander leur avis sur un programme, bref, créer de l'information l'interaction avec lui, c'est aussi sur Internet que ça se passe. Bonjour Mohamed Lakhim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de TYC, T-Y-C. TYC, pour quelle raison ça s'appelle comme
TYC,
ça?
TYC, ça rime avec la politique, avec les technologies de l'information et de la communication. Donc pour diverses raisons, ça s'appelle comme ça.
D'accord. Vous avez créé ce qu'on appelle un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel en français. Racontez-moi comment est né le projet.
Alors le projet est né avec mes deux autres cofondateurs, donc Karim Bénis et Pongan Ganda. Lors d'une discussion, on se disait que souvent on avait de très bonnes idées pour des problèmes de société qui se posent à tout le monde, et que les décideurs, donc les acteurs publics et politiques, n'avaient pas vraiment les moyens pour faire remonter toutes ces opinions et ensuite les utiliser dans le cadre de leur prise de décision. Donc on s'est dit comment créer un outil qui permettrait d'interagir avec un très grand nombre de citoyens, mais à chaque fois en gardant ce côté humain et donc en gardant un côté personnalisé pour chaque citoyen.
Et donc, le robot, ça s'imposait, c'était une évidence.
Voilà,
c'était
le
moyen
permet...
de discuter. Enfin...
Exactement. Ça va être un robot qui va être au nom de notre client, donc qu'il soit un parti politique, un parlementaire ou une collectivité, et qui va leur permettre de parler avec beaucoup de gens et de faire des consultations citoyennes et aussi de diffuser leur contenu de manière personnalisée en fonction des demandes de chacun.
Alors là, vous en avez créé un, spécialement justement pour un parti politique pour les européennes. C'est vous qui... prenez le programme du parti en question, qu'il mettait à l'intérieur et qui décidait de créer les questions et les réponses. Comment ça
Alors,
fonctionne?
On décide avec notre partenaire de quel accent mettre, c'est-à-dire quel type de contenu mettre, plutôt expliquer le programme ou plutôt donner des événements, ou plutôt donner l'actualité. Et une fois qu'on a décidé de ça, notre partenaire va nous donner tous les contenus qu'il veut mettre et nous, on va l'accompagner pour créer un contenu qui soit adapté à ce média qui est le chatbot, donc un contenu qui soit fluide, qui soit simple d'utilisation. Et donc c'est là où on va intervenir avec eux pour passer du contenu brut à ce contenu qui va être facilement diffusable.
Peu importe finalement le parti politique, aujourd'hui vous pourriez en créer un identique pour un autre parti si on vous le demandait ?
Justement, c'est très spécifique. On réfléchit vraiment avec le parti politique, lorsqu'on parle de parti politique, à quel type de contenu il veut mettre et on fait vraiment un chatbot qui soit à son image et en accord avec ce qu'il veut.
Que dit notre coach de ce système de chatbot? C'est quelque chose qui marche bien. Je pense évidemment à tout ce qui est par exemple SNCF, questions, réponses.
J'aime beaucoup parce que c'est des nouvelles interfaces homme-machine qui sont un peu plus simples que le bête formulaire qu'on a à remplir. Donc c'est bien, mais alors par contre ce chatbot il a un tempérament quoi. Il faut qu'il ait un tempérament pour qu'on y croit. Qui définit ce tempérament en fait? C'est votre client?
Exactement.
Ou c'est vous qui le définissez? Il est sympa, il est méchant, il peut être méchant votre chatbot.
On essaie quand même qu'il soit gentil.
Dans le principe, il pourrait être méchant, quoi.
Dans le principe, il pourrait avoir n'importe quel caractère. Mais oui, ça fait partie justement des choses qu'on décide. Et donc, avec chaque client, on décidera du tempérament. Et il sera peut-être différent qu'on parle d'une collectivité ou qu'on parle d'un parti politique. Et aussi, il sera différent en fonction du contexte, par exemple.
Alors, Elisabeth, il y en a des chatbots? Vous en avez trouvé? Il y en a plusieurs?
Alors, des chatbots, il y en a pour différents partis. On peut les citer, Raphaël?
Oui, allez-y, bien sûr.
Bon, par exemple, pour vous, pour TYC, T-Y-C, c'est le parti, c'est LR hein, qui a lancé son chatbot pour ses élections. Donc, c'est un robot conversationnel qui est censé répondre immédiatement aux questions que les internautes lui posent pour permettre, je sais que pour ce chatbot en particulier, c'est aussi pour toucher un public un peu plus jeune hein, que vous avez mis ça en place. Hein. C'est pour aussi élargir la cible. Vous avez donc il est accessible sur Facebook Messenger. Hein, vous cliquez sur envoyer un message et là vous y allez. Vous avez AgoraDem, ça c'est la plateforme de consultation publique du mouvement démocrate. Là aussi c'est une plateforme pour faire participer les personnes qui n'y viennent pas par exemple aux réunions de section ou qui sont éparpillées un peu partout en France. C'est une façon de les réunir et de prendre un peu le pouls, de savoir un peu quelles sont les idées. Ou du côté des socialistes, vous avez la ruche socialiste qui agit aussi là aussi comme un outil numérique de participation démocratique. Voilà, pour chaque fois, il y a un côté humain au nom du parti pour faire des consultations citoyennes.
Moi, ce qui me surprend finalement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose qui ne prend pas ou qui a du mal à prendre chez nous en France aujourd'hui?
C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. C'est-à-dire que cette technologie de chatbot est quand même beaucoup utilisée dans le cadre privé, par exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas encore utilisé dans le secteur public et le secteur politique. Et donc, c'est pour ça que nous, il y a un an, on a décidé de créer TYC, parce qu'on pense que c'est aussi un outil qui va permettre de parler avec beaucoup de gens, de les inclure dans la prise de décision aussi. Par exemple, si on parle d'autres types de partenaires, par exemple pour une collectivité, on va pouvoir simplifier les démarches, quelque chose que les citoyens demandent beaucoup. Pour une institution aussi, on va pouvoir simplifier les démarches. Et donc, Il y a un vrai besoin, je pense, et une vraie utilité, et donc on gagne à développer cette utilisation.
Et certains l'ont compris, hein, parce que des députés vous ont demandé de leur créer un chatbot, députés qui l'auront à disposition, je crois, cet été, c'est ça ?
Exactement.
Pour des collectivités.
Exactement.
Donc les choses sont en train peut-être de changer ici aussi chez nous en France. On reste ensemble et on continue à parler de ces innovations françaises, décidément j'ai du mal aujourd'hui, consacrées à la démocratie.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous êtes peut-être perdu dans les 34 listes qui se présentent pour les européennes. Une association a créé un outil pour vous aider à savoir de quel parti vous seriez éventuellement le plus proche. A tout de suite.
Le dimanche 26 mai se tiendront les élections européennes. Vous allez donc peut-être voter. Eh bien justement, il existe des innovations au service de la démocratie. Nous les découvrons aujourd'hui, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Et vous pouvez poser vos questions aux invités de Raphaël. Ça se passe dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, le standard.
On va voir dans les jours qui viennent si les candidats se présentent aux élections européennes et commencent à consulter la population. Vous allez les voir dans les rues, aller serrer des mains, évidemment en campagne, mais parfois quand on les entend, quand on entend leur discours, ça n'est pas simple, hein, de savoir finalement celui qui nous convient le mieux. Alors, il y a des choses qui sont aujourd'hui à notre disposition. Bonjour Kenita Leang.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice d'une association qui s'appelle Vote et vous. Oui. Alors, c'est en trois mots, hein, Vote, oui. Le et de... justement, vous avez choisi le et un peu différent qui parle à tout le monde.
Absolument.
Du clavier. Et vous, association qui est apolitique, qui est née en 2014.
Oui, c'est ça.
Alors, racontez-moi comment ça démarre ce projet, et surtout, qu'est-ce qui vous motive, vous, pour le mettre sur pied ?
Alors à la base, c'était effectivement l'histoire de six jeunes qui ont la chance en fait de croiser leur chemin, l'équipe allemande du réseau européen Vote Match Europe. Je ne pense pas que le nom dise quelque chose à beaucoup de personnes, mais c'est un réseau en fait qui a lancé aux dernières élections européennes pour la première fois un comparateur de programme. Un comparateur de programme qui prend la forme d'un questionnaire qui permet donc aux utilisateurs, une fois après avoir répondu justement aux questions, de pouvoir à la fois confronter ses convictions politiques avec celles des partis politiques de son pays d'origine, mais également avoir l'occasion ensuite de comparer ses convictions avec celles des partis politiques d'autres pays européens partenaires.
Donc comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis finalement les différents programmes où ils ont pris une partie des programmes avec des points de référence ?
Alors il y avait effectivement dans un premier temps une réflexion plus générale sur quelles sont les thématiques justement qui intéressent à chaque élection européenne, mais plus lors des élections européennes en question. Donc effectivement, vous avez dans certains pays ces programmes qu'on peut effectivement déjà dans un premier temps lire et autres, mais la plupart du temps, quand on réalise ces questions, les programmes ne sont pas encore là. Donc on part plus globalement des thématiques qui en principe
qui intéressent.
Voilà. Donc dans cet outil, vous avez en fait 16 questions qui sont vraiment communes à chacun de ces quiz nationales.
Alors comment vous faites pour être certain au final, une fois qu'on a répondu à ce questionnaire, d'avoir mis la bonne personne en face de la bonne liste.
Alors, disons que le cœur même de ce comparateur était justement d'être un comparateur le plus fidèle possible. Et pour cela, ces questions, après avoir été rédigées par des jeunes citoyens que nous invitons, nous envoyons ce questionnaire à chaque équipe de campagne. Donc là, le travail a été assez important parce que nous avons effectivement 34 listes différentes.
Oui.
Donc chaque liste a été contactée par Votez-vous. Et donc nous leur demandons, à partir de ces affirmations petites de ces questions-là, de répondre à chacune de ces questions et, s'ils le veulent, d'y apporter également une justification supplémentaire.
Je crois que vous avez testé, Elisabeth.
Oui, alors moi j'ai testé. Alors déjà, factuellement, je vous donne quelques exemples de questions.
Ouais.
Première question, il faut sortir de l'euro. Et là, vous avez trois possibilités de réponse. D'accord, indifférent, pas d'accord, enfin quatre possibilités. Ou passer cette question, si ça ne vous inspire pas. Autre type de question, il faut autoriser les OGM dans toute l'Union européenne. Ou encore, le marché de l'électricité doit être renationalisé. L'Ukraine doit entrer dans l'Union européenne. Ou un droit inconditionnel à l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse doit être garanti. Allez, encore une dernière. Les règles d'accueil des demandeurs d'asile doivent être identiques dans tous les pays de l'Union européenne. Vous sélectionnez, une fois que vous avez répondu, vous sélectionnez les thèmes. On vous propose de sélectionner les thèmes qui vous semblent le plus important pour vous dans le cadre de ces élections. Et ensuite, on vous dit de quelle partie vos réponses sont le plus proche. Moi, je trouve que ça s'adresse à un public quand même assez averti. Parce qu'il y a des questions où on n'a pas forcément tous le même, j'allais dire, le même historique, hein, la même connaissance de l'enjeu au sein de l'Europe.
Kanita ?
C'est effectivement aussi un choix. On s'est posé la question parce que quand on les a rédigés effectivement avec des citoyens, certains nous disaient voilà, que sur certaines thématiques, ils n'avaient pas forcément de connaissances de base et autres. Mais l'idée était également par ce quiz, pouvoir susciter des interrogations auprès de l'utilisateur qui puisse également se dire tiens, sur ce sujet, en fait, finalement, je n'y connais pas tant que ça. Mm-hmm. Je vais aller me renseigner.
Oui. Ça suscite la démarche.
Absolument, susciter la démarche. Et justement, on avait lancé un sondage en fait, lors des dernières européennes sur les derniers jours et 46% des utilisateurs nous avaient dit justement qu'à travers cet outil, ils s'étaient posé plus de questions et ils sont allés se renseigner.
Que dit notre coach, Riyad ?
Ben, moi, je demande de quelle façon a été accueilli votre projet par les politiques, déjà ?
Disons que dans un premier temps, selon les listes, effectivement, selon les contacts, nous avions eu dans un premier temps à justement expliquer le bien fondé de la démarche, expliquer pourquoi est-ce que cet outil vraiment est destiné aux citoyens et pourquoi finalement est-ce qu'on a... Pourquoi le projet en tant que tel n'est pas une démarche politiquement... en quelque sorte que cela reste complètement neutre.
Oui, mais, parce que vous
mais comment est-ce que vous faites pour garantir justement cette indépendance ?
L'indépendance
du questionnaire.
Au niveau financier, justement, déjà, on refuse effectivement que des finances puissent venir à la fois d'un parti politique ou même d'une entreprise qui puisse avoir une connotation négative et autre. Et donc, pour cela, nous avons notamment notre fidèle partenaire qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui justement nous aide énormément là-dessus et qui promeut tout ce qui est éducation politique, éducation civique. Et on a également un autre partenaire outre-Rhin qui est le Centre fédéral allemand pour l'éducation civique. Et dans les deux cas, ce sont vraiment des institutions qui sont publiques, qui sont neutres politiquement et qui nous aident justement à garder cette neutralité.
Mais ils
n'ont
pas eu peur que... Parce que finalement, vous enlevez l'affect avec votre questionnaire.
Absolument.
Donc,
absolument.
Si je vote questionnaire... pour le plus beau, je ne peux plus voter pour le
l'idée
plus beau et la plus belle.
Là, c'est plus beau. Absolument. Mais on peut avoir des surprises en remplissant le questionnaire ?
Complètement. Ah ouais. Nous-mêmes, sur certaines questions, on avait jusqu'à présent quelques idées sur ce que pouvait avoir comme parti politique, comme position, et finalement sur
Elisabeth a eu une révélation.
Moi, j'ai une révélation.
Bon, on reste ensemble et on continue à parler de cette démocratie qui est aujourd'hui dans notre quotidien grâce à toutes ces innovations.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend bien sûr un 39-21. Venez nous appeler, poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge avec vous.
On parle politique et engagement citoyen aujourd'hui sur Europe 1. La France bouge. Vous le savez, le 26 mai, vous êtes appelés à voter pour les européennes. Et bien justement, nous découvrons aujourd'hui les innovations au service de la démocratie. N'hésitez pas, si ce sujet vous fait parler comme nous pendant la pub, c'est maintenant que vous pouvez poser vos questions au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Avec nos invités Stéphane Bequin, cofondateur de Vooter, application pour consulter les habitants sur des sujets de proximité. Mohamed Lakim, cofondateur de TIC. TYC, chatbot sur le thème des européennes notamment, mais pas seulement, il y en a d'autres en préparation. Et Kanita Léang, cofondatrice et membre du conseil d'administration de Votez-vous, une association qui élabore un questionnaire pour mieux comprendre le programme des candidats. Vous m'avez dit qu'on avait une question, je crois, sur... sur le hashtag Europe 1.
Tout à fait, sur Twitter. Twitter. Marc vous pose une question à tous les trois. Comment prenez-vous en compte dans vos outils la problématique du piratage informatique ?
Ah, qui veut répondre ? Stéphane ?
Oui, volontiers. Bah, en fait, nous, c'est ce qui nous a motivés dans la genèse du projet. On est parti de ça. On est parti du fait qu'on pouvait nous reprocher un jour que ce ne soit pas suffisamment sécurisé. Donc en fait, toute notre attention est portée à la pertinence, on va dire, des gens qui donnent leur avis et de bien prouver qu'il n'y a qu'une personne qui répond, qu'on peut le faire qu'une seule fois. Donc alors, Dimitri qui est dans le coin pourrait vous expliquer, mais on a un algorithme du miroir.
Voilà, il est là, il est en régie en gros, avec Thomas et Lorraine qui a préparé l'émission.
On valide chaque avis via un si grand nombre de règles que on a eu cette discussion en antenne aussi. On pourrait faire que à la marge, il y ait des gens qui arrivent à peut-être mettre deux votes au lieu d'un. Mais globalement, nous, on est un outil de tendance pour faire émerger un petit peu, affirmer ou non un projet ou une décision. Et nous, on sécurise complètement le processus aujourd'hui. Voilà.
On avait un débat, effectivement, pendant la publicité, vous le disiez, et c'est une des questions qui se pose. Elle est d'abord pour vous, Kanita. Comment on fait si finalement on enlève tout l'affect, hein, comme disait Riyad? Elisabeth disait, est-ce qu'on vote pas aussi pour une personne, et est-ce que finalement on va pas tous finir par appuyer sur des boutons et oublier la dimension humaine?
Justement, l'idée à travers Votez-vous était de sortir un peu de ce côté un peu plus affect et de rentrer dans l'aspect un peu plus rationnel. Parce qu'aux européennes, au contraire d'une élection un peu plus nationale telle que l'élection présidentielle, on vote moins pour une personne, pour une tête de liste, en vérité, que pour un programme également.
Donc c'est plus simple à faire pour les européennes finalement que pour la présidentielle par exemple ?
C'est d'autant plus simple que lors de la présidentielle, les candidats ont vraiment en réalité toute l'attention médiatique
sur eux. Ils incarnent vraiment le parti qu'ils représentent.
Et n'ont peut-être pas forcément besoin de ce genre de démarche, d'outils, d'initiatives citoyennes qui viendraient en fait ajouter un point supplémentaire sur ce qui peut être en fait leur médiatisation ou même essayer de convaincre. Ils arrivent déjà d'emblée à convaincre par leur personnalité.
Un message, je crois, Anissa.
Oui, alors il y a Sarah qui vient de poster un message et qui nous dit un petit peu sceptique sur Votez-vous, la politique, cela s'incarne, ce ne sont pas que des idées, la politique, ce n'est pas qu'un programme, il y a d'abord des hommes et des femmes en qui on fait confiance.
Oui, c'est effectivement
la discussion qu'on vient d'avoir. Et j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où effectivement, ce programme est à la fois un programme politique, mais c'est également un programme à travers lequel on peut en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur finalement ce qui est fait par l'Europe, sur ce que peuvent porter des eurodéputés une fois siégeant ensuite au Parlement européen. Et ce sont ces thématiques-là qui, une fois l'élection, le vote passé, en fait, travaillent pendant plusieurs années durant leur mandat pour justement faire évoluer l'Europe. Donc c'est très très important.
Votre avis, Mohamed ?
Sur ce sujet, je vais revenir sur le côté un peu humain de la démarche. Je pense que
Le robot, le côté humain, c'est un peu compliqué. Hein.
Justement, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler avec un acteur public ou un acteur politique qui reçoit tous les jours des centaines de messages, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc nous, notre travail, c'est aussi d'essayer de casser cette barrière et de trouver les outils qui vont permettre de recréer du lien entre un citoyen et son maire, entre un citoyen et une institution qui, pour lui, n'est qu'un site internet. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous les jours sur ces outils qui vont permettre de casser ces barrières et de créer plus de liens.
Donc aujourd'hui, c'est aussi le moyen de faire venir plus de jeunes à la politique, les 18-24 ans. Je crois qu'il y a 74% de jeunes qui se désintéressent, hein, notamment des élections. C'est ce moyen-là, le chatbot ou en tout cas tous les réseaux sociaux qui peuvent les amener à s'intéresser à un sujet qui ne leur plaît pas forcément.
Complètement. L'idée, justement, étant par ce genre d'initiative, il y en a de nombreuses et elles sont toutes à mes yeux complémentaires. L'idée étant justement de démystifier en fait l'Europe, de leur montrer que finalement l'Europe ce n'est pas si loin. Quand ils, par exemple, traversent la frontière et qu'ils peuvent utiliser à la fois leur permis, qu'ils peuvent également franchir la frontière sans aucune démarche, tout ça c'est l'Europe. Quand ils peuvent utiliser leur téléphone portable en dehors de la frontière, tout ça c'est également l'Europe. Donc l'idée étant justement d'apporter l'information à leur niveau et de leur montrer que ça reste accessible.
Les ramener finalement dans la vie quotidienne pour leur montrer que l'Europe a aussi des incidences dans la vie de tous les jours. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos innovations au service de la démocratie aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va rester ensemble bien sûr, juste après une petite pause musicale, on va vous faire découvrir l'envers du décor de Sottis. Car si elle est née à Paris et que c'est un Polonais qui l'a créée, aujourd'hui elle est très corrézienne et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Dans un instant, vous allez découvrir l'entreprise française qui va bien, une entreprise de produits de beauté corrézienne qui existe depuis de nombreuses années. C'est dans un instant et c'est juste après le nouveau titre de M sur Europe 1. Grand petit con, le nouveau titre de M que vous découvrez sur Europe 1, extrait de son nouvel album L'être infini. Un clip qu'on vous recommande. Allez voir sur YouTube le clip de Grand petit con parce qu'il est réalisé par Michel Gondry. Ça, c'est bleu, blanc, rouge aussi, c'est Made in France et réalisé entièrement au smartphone.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise française qui va bien aujourd'hui.
Et cette entreprise, eh bien figurez-vous qu'elle porte le nom d'une déesse égyptienne, c'est Sottis. Bonjour Christian Masse.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Sottis Paris, créé par un fan d'égyptologie hein, au départ, ça, un biologiste polonais. On est en 1946. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette sottise, qui est d'ailleurs dessinée sur... Sur les paquets, sur tous vos produits.
Tout à fait, c'était la déesse égyptienne de la beauté, dont on dit qu'elle aurait séduit Saturne, que Vénus l'aurait fait disparaître et qu'elle serait revenue sur le faubourg Saint-Honoré donner ses secrets de beauté aux femmes.
D'accord, d'où l'histoire, le lien avec la ville de Paris où il installe...
D'où le lien, d'où c'est un peu ce que j'appelle la nouvelle vague, la beauté française, avec plein de petites marques, enfin plein d'instituts de beauté à l'époque qui faisaient leurs produits en sous-sol. Et elle est née sur le faubourg Saint-Honoré, ou elle est revenue sur le faubourg Saint-Honoré. Ouais.
Alors, cet institut parisien de beauté, comment est-ce que votre famille arrive dans l'aventure? Parce que, je l'ai dit, c'est un Polonais au départ. C'est Et ça. Puis, il y a la famille Mas qui arrive, qui est une famille de Corrèze.
Corrézienne, oui. Et oui, en fait, mon grand-père travaillait dans un laboratoire à Septa qu'il avait cofondé avec un copain d'études, plus sur la pharmacie. Et ils cherchaient un moment à se diversifier. Ils ont entendu parler de cet institut de beauté qui était à vendre. Je dis souvent, ça fait 2 générations et demie, parce qu'en fait, mon grand-père l'a acheté, mais c'est mon père tout de suite qui opérationnellement
a développé.
Et voilà. Et
on
c'est
est
parti
en 1966.
On est en 66 et on est parti en Corrèze après, dès qu'on a eu un peu de succès en 76.
Alors, votre père, effectivement, arrive très vite dans l'aventure. C'est lui qui développe, qui va permettre notamment à la marque de s'implanter dans énormément de pays. 120 pays aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est dans 120 pays. On est vraiment très bon dans 60 à 90 pays. Ouais.
Et vous avez le gros de vos troupes, hein, si j'ose dire, sur la fabrication en tout cas, en Corrèze.
Tout à fait.
C'est là que se situe votre principale unité de production à Messac, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Pas très loin de Collonges-la-Rouge, pour ceux qui connaissent. Vous avez vraiment tenu à avoir cet ancrage en Corrèze. C'était important de garder le lien.
Pourquoi? Parce qu'à un moment, la marque grandissant, on ne pouvait plus tenir dans le faubourg là où on était. Et on n'avait pas de lien avec la région parisienne autre que cet institut. Donc il y avait une vraie logique à rentrer chez nous, entre guillemets, même si moi je suis revenu maintenant. Mais mon frère est toujours implanté là-bas, à revenir là-bas et puis à vivre cette aventure là-bas. Alors mon père avait dit, les concurrents disaient à mon père, tu pars pour un enterrement de première classe. C'était 8 heures de voiture à l'époque, il n'y avait pas internet, tout ça, n'en parlons pas. Et finalement, c'est peut-être ce qui nous a protégés un peu. Ça nous a permis de sortir du microcosme de la beauté parisienne, de faire notre développement, et aujourd'hui c'est un vrai trésor.
C'est votre père qui disait qu'il a installé les jardins Sottis là-bas parce que c'était la source d'inspiration, ou c'est votre grand-père?
C'est mon père. Alors ça,
Aurillac, c'est ça?
À Aurillac, en Haute-Corrèze, juste au bord du Cantal. Et ça, pour le coup, c'était complètement visionnaire, dans le sens où mon père nous a laissé les rênes de la société il y a 10 ans maintenant. Et c'est toujours un vrai challenge, mais forcément de reprendre, de savoir comment on se place familialement, etc. Il a décidé de nous laisser l'opérationnel. Je dis pas que de temps en temps, il va pas remettre son nez dedans ou nous ressortir le truc que fallait pas qu'il voit. Mais en fait, ça se passe comme ça. Et lui a laissé l'usine, donc dans le village de la grand-mère, et il a fait ce que mon grand-père avait rêvé de faire, redévelopper une activité dans le village du grand-père, ouais. Ce qui est aujourd'hui un jardin botanique.
100% familial.
Et qui au départ
n'avait
pas de lien. Mon frère et moi, on disait qu'est-ce que... Et finalement, il y a remis des chercheurs, on a redéveloppé quelque chose, on a lancé une gamme bio à côté.
Vous faites,
et le jardin a retrouvé sa légitimité dans le groupe.
Combien est-ce que vous faites de formules par an?
Alors sur le labo, sur la marque Sottis, je ne les ai pas toutes, une trentaine, donc c'est énorme.
Ouais. Et 400 tonnes de crème fabriquées
c'est
par
ça,
an.
C'est ça, oui.
Un peu plus de 130, je crois, litres de lotion également.
C'est bien ça, oui.
Comment est-ce qu'on fait pour garder justement à la fois cette dimension internationale et cet ancrage terroir?
C'est
un grand écart permanent.
Je dirais c'est les équipes et même nos distributeurs. Je dirais l'ancrage terroir, il a, au cours des 10 dernières années, pris une vraie valeur. Moi, je vois tous les partenaires étrangers qu'on a. Ils viennent en France, ils viennent à Paris. Ils ont le même bar lounge ici qu'à Marrakech, qu'à Singapour. Et finalement, par contre, de venir à Brive, ils voient la vraie France telle qu'ils l'imaginent quelque part. Et il y a un vrai affect à venir chez nous. Et en plus, on n'y vient pas. On a eu notamment un grand groupe américain, là, hôtelier, qui est venu. On ne vient pas chez nous par hasard. Mais par contre, après, c'est autre chose aussi, quoi.
Que dit notre coach ?
Vous êtes combien de salariés, là, chez Sottis ?
Alors, on est 300 France et 500 Monde, avec D'accord. les filiales Export.
C'est un marché où il y a beaucoup de concurrence, ou pas ?
C'est un marché, pour moi, très concurrentiel, que moi, je pratique depuis une grosse quinzaine d'années maintenant, que j'ai vu énormément évoluer. Si vous voulez, avant, c'était un peu la foire dans... très artisanal, très commerçant français. Moi, je faisais tous les congrès à l'étranger. On se connaissait tous. C'était tous des fils d'eux ou des créateurs, etc. Il y avait un vrai lien. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Ça a été beaucoup repris par des grands groupes. Et on perd un peu ce côté personnel, parfois. Ouais.
C'est complètement industrialisé, comme... Manufacture ?
Alors, c'est, y a beaucoup, on est une soixantaine, une grosse soixantaine, peut-être 80 à l'usine maintenant. Ça reste très manuel.
D'accord.
Il y a beaucoup de travail manuel, oui, tout à fait. Ouais.
La suite, c'est quoi ? Parce que je le disais, 100% familial, ça va continuer, ça va le rester ?
Après, c'est un challenge. Hein. Mon frère a deux filles, j'ai un fils, on verra. Le but, c'est surtout que, bon, moi, j'ai vu pas mal, justement, d'entreprises être transmises, c'est surtout qu'on soit capable. Bon. Je fais le vœu, mais de préparer l'avenir. Et puis, si l'avenir, ça passe pas par nous, bah, déjà assurer celui de nos enfants et faire en sorte que cette DS, elle continue à briller. Ouais. Et qu'elle garde un peu la philosophie. C'est ça le challenge et la spécificité qu'elle a aujourd'hui. Ouais.
Et cette DS, elle s'appelle Sotis. C'est aussi l'entreprise qui va bien. Merci,
merci
Sandra d'être venu nous
merci.
En parler.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous voulez vous mettre à consommer de manière plus responsable et vous ne savez pas comment faire ? Une box peut vous aider. C'est Pouce Pouce et c'est la solution.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et si on veut devenir un très bon consommateur et faire plus attention, vous avez la solution aujourd'hui.
Ah bah écoutez, oui, en tout cas, on a essayé de la trouver. Réveiller le jardinier qui sommeille en vous, c'est un peu ça, hein, pour consommer de manière plus responsable. C'est possible effectivement grâce à Pouce Pouce. C'est la solution, Elisabeth.
Oui, c'est l'histoire de trois jeunes amis originaires de Perpignan qui ont créé cette start-up assez originale qui conçoit et qui vend en ligne des box de jardinage 100% locales envoyées chaque mois à la maison si évidemment vous êtes abonné. Ça s'appelle donc Pouce Pouce. Vous avez la possibilité de trouver dans votre boîte aux lettres une sélection de graines potagères bio à faire pousser à la maison. Et donc, moi, en lisant ça, je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne façon de se reconnecter à la nature, surtout si on vit en ville. Bonjour Grégoire Bessas de Chastenay.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Pouce Pouce. Alors, comment ça vous est venu, cette idée de box pour nous reconnecter à la nature ? Je crois que c'est un peu c'est comme ça que vous la vendez.
C'est une box, en fait, pour se reconnecter à la nature et pour adopter les bons gestes écologiques pour la planète.
Alors, c'est quoi concrètement ?
Alors concrètement, on va vous faire chaque mois un geste pour vous, un geste pour la planète. Très simplement, on va vous faire enlever, le film alimentaire en plastique, le film aluminium. On va vous faire faire un bivrap. C'est un tissu qui est imprégné de cire d'abeille. Et donc, ça vous permet en fait d'éviter tout ça, tous ces emballages alimentaires.
Ça, on le reçoit dans la box.
Vous recevez dans la box. Donc, c'est un kit à faire soi-même, donc en famille ou même tout seul. Hein, c'est possible aussi. On va vous faire découvrir des graines germées. Donc, c'est des graines que vous allez pouvoir consommer en 10 jours dans votre cuisine. On va vous faire aussi planter votre petit potager sur votre terrasse de balcon, mais pas seulement, on va vous faire vraiment, on va prendre tous les cas, que ce soit de la maison, de la déco, mais tout ça en lien toujours pour avoir le moins d'impact possible pour notre planète. On va vous faire faire votre propre baume à lèvres, on va vous faire faire votre propre savon, ça c'est tout ce qui était partie cosmétique, on a fait faire aussi de l'alimentaire, on va vous faire faire votre propre moutarde bio, et donc tout ça c'est avec un petit kit, tous les ingrédients en fait principaux, une notice, et donc c'est parti pour vous faire du bien à vous et surtout à la planète.
Et ça coûte combien ?
24,90€ par mois, donc c'est tous les mois. Comme je vous dis, pour faire du bien à vous, à vos amis, à tout le monde, puisque c'est bénéfique pour la planète.
Vous la vendez comme une box de jardinage, donc là vous nous avez parlé des produits cosmétiques,
exactement,
de faire du bien à la planète, mais vous nous permettez aussi de découvrir des variétés de plantes totalement exceptionnelles. Hein, la sauge ananas, la plante à curry, la moutarde japonaise.
On va chercher en fait, on a des fournisseurs qui sont locaux, ça c'était ma partie un peu dans la côté agricole à l'époque. On essaye aussi de sortir de l'ordinaire, d'éveiller un petit peu la curiosité en chacun de nous, de nous montrer en fait que la nature elle a plein de possibilités et que c'est sur elle qu'on doit s'inspirer pour pouvoir changer les habitudes.
Que dit le coach de cette box ?
Moi je trouve ça super, je trouve ça très très original, c'est pas très cher en plus pour 24,90€. Je voulais juste savoir, vous en avez vendu combien et combien faut en vendre pour que vous soyez rentable ?
Aujourd'hui, alors nous ça fait juste, en fait notre première bougie ce mois-ci, on a envoyé plus de 5000 box plus de 1000 abonnés en fait à date. Aujourd'hui il faudrait qu'on en ait le double, mais on s'y approche. Donc,
on est bien parti, oui.
Et comment vous décidez de ce que vous mettez dans la boîte à nous envoyer ?
Ça, c'est ma partie. Ah. En fait, ça c'est, je suis un peu le responsable de l'offre et donc chaque mois en fait c'est plein de
on
surprises.
On peut pas choisir. C'est non, on peut pas choisir. En
fait, c'est moi qui vous fais la surprise et chaque mois il y a en fait on va cibler une problématique, on va faire le constat et on va vous proposer vraiment une solution. Mais c'est vraiment une solution concrète quoi. C'est pas simplement juste des petites idées.
Vous vous fournissez localement, hein, je crois dans une pépinière, c'est
on
ça
On essaye au maximum. Hein, donc on en a plusieurs puisque aujourd'hui comme les volumes augmentent, il faut aussi faire face à ces petits détails là. Notre cartonnier il est de chez nous localement. On a choisi notre solution de paiement aussi par son implantation. C'est pas simplement juste parce que c'est du digital. Voilà, c'est vraiment, on essaye d'axer cette solution-là. On a aussi un petit côté social puisque toutes nos boxes sont faites par des travailleurs handicapés. On essaye d'avoir aussi dans nos emballages, puisque quand même on a une box et qu'on a du carbone, donc on essaye d'avoir le moins d'impact possible. Donc c'est du craft qui est recyclable, qui est neutre, comme ça il n'y a pas d'impression en fait dessus. Donc voilà, on essaye vraiment, c'est dans notre ADN. Hein. Là on vient de faire une opération, malgré notre petite taille, on vient de faire une opération sur je ne sais pas si je dois le citer, mais sur une marque de télé française, où on a fait une publicité pendant 5 jours et on offrait des stop pubs gratuitement aux gens.
Que Riyad a.
Voilà. Et que Riyad, que j'ai envie de donner un à Riyad et que je vais tous vous en donner un. Aujourd'hui, avec cette opération, c'est 5000 stop pubs envoyés. C'est 12 tonnes de papier économisé par an.
Et c'est une super idée cadeau parce qu'on peut s'abonner pour quelqu'un.
Exactement. Et ça s'appelle Pousse Pousse. C'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci à Riyad qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, il y a toujours le World Impact Summit et vous pouvez toujours participer si vous êtes une start-up ou une entreprise. On vous met tous les détails sur le site europe1.fr.
Dans un instant, à 14h sur Europe 1, et pour commencer la semaine, Christophe Ondelat va vous plonger au cœur d'une célèbre affaire criminelle. Alors, quel est le programme ?
Bonjour Anissa.
Bonjour Christophe.
Aujourd'hui, je vais enfin vous raconter la fameuse affaire Jean-Claude Roman, puisque, vous le savez, le tribunal d'application des peines a décidé de le libérer en conditionnel. Il va donc sortir de prison dans les jours et les semaines qui viennent. Et il était temps que je vous raconte cette histoire d'un bout à l'autre.
L'affaire Jean-Claude Roman racontée par Christophe Ondelat, eh bien c'est votre programme dans un instant à 14h pile sur Europe 1.